Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, solidaires, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements informés, entre autres. Ministre indonésien de la Défense et celui des Japonais discutent des quatre points du pilier stratégique. Culture est fondement du développement de la nation indonésienne. Indonésie discute du renforcement du partenariat pour célébrer 75 ans de relations avec la Turquie. Agence de quarantaine garantit que les bovins importés pour Astacita sont indemnes de fièvre apteuse. Ambassade indonésienne surveille la situation des citoyens indonésiens suite au tremblement de terre au Tibet. BMKG a déclaré le tremblement de terre dévastateur au Népal et en Chine n'a pas affecté l'Indonésie. Et Dejan Gloria s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open de Malaisie 2025. Mon cher Jeter, voici le nouvel en complet. Le ministre indonésien de la Défense, Shafri Samsudin, a reçu une visite officielle du ministre japonais de la Défense, le général Nakatani, avec son entourage au bureau du ministère de la Défense à Jakarta mardi 7 janvier. Le chef du bureau d'information sur la défense du secrétariat général du ministère de la Défense, le général de brigade de l'armée nationale indonésienne, TNI, Frega Wenas Inkiriwang, a déclaré aux médias après la réunion entre le ministre de la Défense, Shafri Samsudin, et le ministre japonais de la Défense, le général Nakatani, que les ministres indonésiens et japonais de la Défense avaient discuté de questions stratégiques pour renforcer la coopération en matière de défense. Le général Frega a dit: les potentiels futurs peuvent être explorés à la fois en Indonésie et au Japon car à ce jour, de nombreuses relations ont été démontrées dans ce domaine. Il y a plus ou moins ces quatre piliers qui sont les quatre points principaux de la discussion. Le premier est l'amélioration de la communication à un niveau élevé, car nous savons qu'au cours des dernières années, l'Indonésie et le Japon ont accru leur statut de partenariat stratégique maintenant à un partenariat stratégique global, de sorte que nous espérons qu'il y aura un renforcement des relations bilatérales, y compris les relations de défense. Le général de brigade Frega Wenas a également évoqué d'autres piliers stratégiques discutés par les deux ministres de la Défense, à savoir la coopération au niveau des unités comme l'exercice naval multilatéral Komodo et Super Garuda Shield, le renforcement des échanges de personnel militaire dans le domaine de l'éducation et la promotion de la coopération en matière d'équipement militaire. Selon Frega, le Japon possède une technologie de défense avancée. On espère donc qu'il y aura des transferts de technologies à l'avenir. Le ministre de la Culture, Fadlizon, a déclaré que le gouvernement central accordait une attention particulière et mettait l'accent afin que la culture devienne le fondement du développement de la nation indonésienne lors d'une visite de travail à Mataram, dans l'ouest de Nusa Tenggara. Mardi 7 janvier, Fadlizon a déclaré que la culture était une partie indissociable de l'ensemble du mouvement de développement. Fadlizon a déclaré que la promotion de la culture est conforme au mandat constitutionnel contenu dans la loi numéro 5 de 2017. Ce règlement est la première référence juridique pour la gestion de la richesse culturelle de l'Indonésie. Selon lui, l'Indonésie est le pays ayant la plus grande diversité culturelle au monde. Le potentiel de diversité culturelle rend l'Indonésie de plus en plus forte, tant en termes de fondements que d'identité et d'identité nationale. L'ambassadeur de la République d'Indonésie en Turquie, Ahmad Rizal Purnama, a souligné l'importance de renforcer les partenariats bilatéraux dans les secteurs prioritaires, notamment dans le contexte du 75e anniversaire des relations diplomatiques Indonésie-Turquie. L'ambassadeur Rizal, lors de l'événement de lancement pour commémorer le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Turquie, à la maison de l'ambassadeur de l'ambassade d'Indonésie à Ankara en Turquie, a déclaré mardi 7 janvier que le partenariat entre les deux pays avait un énorme potentiel pour apporter des avantages à la société dans les domaines principaux. Selon l'ambassadeur Ahmad Rizal, les secteurs prioritaires incluent le commerce en créant des emplois, en encourageant l'innovation et en ouvrant la voie à une prospérité partagée, puis dans le secteur de la défense en renforçant l'industrie et en maintenant la paix et la stabilité dans la région. Renforcer également le secteur de l'énergie grâce à une collaboration dans le domaine des énergies propres pour une croissance durable. Ensuite, dans le secteur de la santé en améliorant la qualité de vie grâce à un meilleur système de santé, ainsi que dans le secteur des infrastructures en construisant des bases solides pour un développement à long terme. L'ambassadeur Ahmad Rizal a ajouté qu'au cours des 75 dernières années, le partenariat entre l'Indonésie et la Turquie a continué de se développer à travers la coopération dans les domaines du commerce, de la culture, de la défense et de la solidarité face aux défis mondiaux, notamment l'entraide lors des catastrophes naturelles, en particulier la tsunami à Aceh et tremblement de terre en Turquie. L'agence indonésienne de quarantaine Barantin garantit que tous les bovins importés d'Australie entrant en Indonésie dans le cadre du programme Astacita sont indemnes de fièvre aphteuse PMK et de dermatose nodulaire LSD. Le chef de l'agence indonésienne de quarantaine, Sahat M. Pangabian, a expliqué que la certitude quant à la sécurité et à la santé du bétail importé a été obtenue à partir des résultats de l'examen du sérum sanguin animal dans une ferme appartenant à la société Tanjung Unggul Mandiri dans le village de Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang, Banten, mardi. Il a révélé que le bétail importé pour répondre aux besoins alimentaires, notamment le programme Astacita et le repas nutritif gratuit MBG, a subi une série d'examens physiques et de laboratoires qui font partie des mesures préventives visant à garantir la santé et à prévenir la propagation des maladies. Il a ajouté qu'avant la livraison, le bétail avait également suivi les étapes des mesures de quarantaine animale et reçu les vaccinations PMK et LSD. Le ministère indonésien des Affaires étrangères assure que l'ambassade indonésienne en Inde, au Népal et au Tibet, en Chine, continue de surveiller la condition des citoyens indonésiens dans ces pays. Suite au grand tremblement de terre qui a secoué plusieurs régions mardi, Judha Nugraha, directrice de la protection des citoyens indonésiens et de l'aide juridique indonésienne, BHI, du ministère indonésien des Affaires étrangères, a déclaré que l'ambassade d'Indonésie à Dhaka, qui sert également de Népal, n'avait reçu aucun rapport faisant état de citoyens indonésiens touchés par le tremblement de terre au Népal. Judha Nugraha, dans une déclaration écrite publié mardi par Antara, a déclaré qu'il y avait actuellement environ 70 citoyens indonésiens au Népal. Judha a souligné que l'ambassade d'Indonésie à Dhaka a pris des mesures pour surveiller les citoyens indonésiens au Népal et continue également de rechercher des informations sur la possibilité que des citoyens indonésiens escaladant les montagnes de l'Himalaya soit affecté. L'agence de presse chinoise a rapporté 53 personnes sont mortes et 63 autres ont été blessées en Chine à la suite d'un séisme de magnitude 6,8 qui a frappé la région du Tibet. L'agence de météorologie, de climatologie et de géophysique BMKG a déclaré qu'un puissant séisme de magnitude 7,2 avec un épicentre terrestre dans la région frontalière entre le Népal et la Chine n'a eu aucune influence sur le territoire indonésien. Daryono, directeur des tremblements de terre et des tsunamis du BMKG à Jakarta, a déclaré mardi 7 janvier que le centre du tremblement de terre de magnitude moyenne se trouvait sur terre à une profondeur de 25 km et se trouvait à 157 km au sud-ouest de Sigats en Chine et à 236 km au nord-est de Katmandou, Népal. Le tremblement de terre survenu dans la zone des hauteurs vers 8h05 heure locale a été confirmé par BMKG comme étant déclenché par une activité de faille active avec un mécanisme de mouvement vers le bas. Ce puissant séisme a tué environ 53 personnes et 63 personnes ont été blessées et de nombreux bâtiments se sont effondrés. Joueuse indonésienne de badminton, un double mixte d'Ejan Ferdinandshah, Gloria Emmanuel, Wijaya, ont ouvert leur premier tournoi cette année avec une victoire au premier tour de l'Open de Malaisie 2025 à l'Axiata Arena de Kuala Lumpur mardi. Dejan et Gloria ont confirmé leur place en huitième de finale après avoir battu les représentants Ot Wong Tiang Chi Lim Chiu Sin lors de deux matchs consécutifs, 21-12 et 21-13. Dejan, cité dans la déclaration de la direction centrale de l'Association indonésienne de badminton, a déclaré que le match s'est bien déroulé grâce à une bonne adaptation sur le terrain et à la capacité de garder le contrôle de jeu. Le père numéro 8 mondial a également déclaré que l'une des choses importantes dans ce match était de savoir comment maintenir un rythme de jeu rapide. Bon, chers joueurs, c'est toutes les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh,
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le commentaire d'aujourd'hui. Intitulé « Apple est encouragé à investir et à créer des emplois en Indonésie » avec moi, Audrey. Chargé d'État de ministères indonésiens, à savoir le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Investissement et du Conseil de coordination des investissements en aval, ont rencontré la direction de la société Apple à Jakarta mardi 7 janvier. Après la réunion, le directeur général de l'industrie des machines métalliques, des équipements de transport et de l'électronique du ministère de l'Industrie, Setia Diarta, a déclaré que les négociations avec Apple n'avaient abordé que la question du respect du niveau des composants nationaux afin que l'entreprise américaine puisse vendre officiellement son nouveau produit, l'iPhone 16, en Indonésie. Auparavant, le ministre de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita avait encouragé Apple à recourir au premier programme d'investissement, à savoir la construction d'installations de production ou d'usines. L'objectif est de créer des emplois grâce à cet investissement. Pendant ce temps, le résultat de la réunion avec le ministre de l'Investissement et de l'Aval, agence de coordination des investissements Rosan Ruslani, a été qu'Apple s'est engagé à construire une usine de vente d'AirTag à Batam, dans les îles Riau. La valeur de l'investissement est estimée à 16 000 milliards de roupies. La réunion tenue par les deux ministères du cabinet rouge et blanc est l'une des étapes concrètes d'Asta Cita ou des 8 missions du gouvernement du président Prabowo Subianto. Le troisième point d'Asta Cita est d'augmenter les opportunités d'emploi de qualité, d'encourager l'entrepreneuriat, de développer les industries créatives et de poursuivre le développement des infrastructures. La création d'emplois est l'une des principales préoccupations du gouvernement de Prabowo Subianto. L'ouverture d'opportunités d'emplois de qualité ne peut se faire à court terme. Une planification globale du développement accompagnée d'un plan d'industrialisation stratégique est nécessaire. Cela signifie que des programmes doivent être préparés pour améliorer la qualité de la main-d'œuvre en Indonésie. L'implantation d'usines par des investisseurs étrangers en Indonésie ouvrira des opportunités d'emploi. On espère que cela ne durera pas seulement un certain temps, mais qu'il sera durable, surtout si cela s'accompagne d'un transfert de technologie afin que la main-d'œuvre indonésienne devienne plus qualifiée. D'un autre côté, augmenter l'emploi signifie également encourager les ressources humaines à atteindre au moins les qualifications requises, voire à les dépasser. Cela signifie que de nombreuses parties prenantes doivent être impliquées pour améliorer la qualité des ressources humaines à partir des établissements d'enseignement formels, informels et non formels. Ce qui n'est pas moins important est la conscience de chaque Indonésien d'améliorer sa qualité. Bon, chargé d'art, c'est tout. Le commentaire.
Bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 8 janvier 1912, le Congrès national africain a été fondé. Le Congrès national africain ANC a été fondé le 8 janvier 1912 à Bloemfontein dans le but de protéger les droits de la majorité noire en Afrique du Sud. Fondé par des personnalités telles que Albert Luthuli, Sol Plaatje et John Dubé, ce parti s'appelait à l'origine le Congrès national autochtone d'Afrique du Sud jusqu'en 1923. L'ANC est connu comme un mouvement de libération qui s'est opposé à l'apartheid et a réussi à obtenir le pouvoir majoritaire en 1994 après les premières élections post-apartheid qui ont abouti à l'élection de Nelson Mandela à la présidence de l'Afrique du Sud. Depuis ce moment-là, l'ANC a continué à diriger le pays sud-africain et est le parti dominant, même si sa part des voix a commencé à décliner depuis 2004.
Passons maintenant à l'événement du 8 janvier 1996. L'opération de libération des otages de Mapinduma commence. La crise des otages de Mapinduma a commencé le 8 janvier 1996 à Mapinduma, Jayawijaya, Papouasie, lorsque 11 membres de l'équipe d'expédition Lawrence 95 ont été pris en otage par la branche militaire de l'Organisation de Papouasie Libre, OPM, dirigée par Kelly Kualik. L'expédition Lawrence 95, qui a débuté le 18 novembre 1995, a traversé Mapinduma avant la prise d'otage. Cet incident a pris fin après 130 jours, à savoir le 9 mai 1996, lorsque le commandement des forces spéciales Kopassus, dirigé par Prabowo Subianto, a terminé l'opération Mapinduma pour libérer les otages. L'opération de libération des otages a entraîné la mort de deux otages. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 8 janvier, Journée mondiale de la dactylographie. La Journée mondiale de la dactylographie est célébrée chaque 8 janvier pour célébrer les compétences humaines en matière de dactylographie et de communication. Cette communication a été réalisée pour la première fois en 2011 en Malaisie à travers un concours de dactylographie rapide qui a ensuite été reconnu internationalement. La Journée mondiale de la dactylographie nous rappelle l'importance des compétences en dactylographie qui ont commencé avec l'invention de la machine à écrire commerciale en 1874. La Journée mondiale de la dactylographie est l'occasion d'honorer le développement des compétences d'écriture et de communication au cours de l'histoire et d'admirer les innovations du futur. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Tunggu aku akan datang menjemputmu nanti di bulan kan ku lewati kegusan bintang melintasi ribuan tahun cahaya ku pandang langit gelap saat gelap datang menjelang menantikan dirimu masihkah Yeah.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, rejoindre les BRICS, des opportunités pour encourager l'économie indonésienne à un niveau supérieur. La Chambre de commerce et d'industrie, Kadin d'Indonésie, salue l'adhésion de l'Indonésie en tant que membre à part entière du bloc économique composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, connu sous le nom de BRICS. Dans une déclaration écrite mardi 7 janvier 2025, le président général de la Chambre de commerce et d'industrie, Kadin d'Indonésie, Arshad Rashid a déclaré que cette adhésion offrait une excellente opportunité d'encourager l'économie nationale à un niveau supérieur. Sur le compte Instagram officiel de Kadin, Arshad Rashid a déclaré que l'adhésion au BRICS ouvre de grandes opportunités, notamment pour élargir la coopération économique, accroître le commerce et les investissements et soutenir une croissance durable. Arshad a également déclaré que l'adhésion de l'Indonésie au BRICS était un moment historique qui confirmait la position de l'Indonésie en tant que puissance économique mondiale. Cela ouvre également des opportunités à l'Indonésie pour renforcer son économie. Cependant, selon Arshad, avec les opportunités existantes, l'Indonésie doit également être prête à faire face à de nouvelles responsabilités, notamment dans la gestion d'une concurrence mondiale de plus en plus serrée. Néanmoins, Arshad est optimiste et pense que grâce à la synergie entre le gouvernement et le monde des affaires, l'adhésion de l'Indonésie renforcera les fondamentaux économiques, encouragera l'innovation et créera de nouveaux emplois. Et Arshad a souligné que la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie s'engage à être un partenaire stratégique du gouvernement pour garantir que les avantages de l'adhésion au BRICS puissent être ressentis par tous les Indonésiens. Pendant ce temps, cité sur le site officiel du gouvernement brésilien dans le cadre de la présidence des BRICS de cette année, le gouvernement brésilien a officiellement annoncé l'adhésion officielle de la République d'Indonésie dans les BRICS en tant que membre à part entière le 6 janvier 2025. Dans sa déclaration, le gouvernement brésilien a déclaré qu'avec la plus grande population et économie d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie partage le même engagement que les autres pays membres à réformer les institutions de gouvernance mondiale et a apporté une contribution positive à l'approfondissement de la coopération sud-sud. Comme le Brésil, le gouvernement chinois félicite et accueille chaleureusement l'Indonésie en tant que membre à part entière des BRICS. La Chine a exprimé sa volonté de coopérer avec l'Indonésie et les autres membres des BRICS pour construire un partenariat plus complet, plus étroit, pratique et inclusif, favorisant le développement d'une coopération des BRICS de haute qualité. En plus de s'engager à apporter une plus grande contribution à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité, le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que la participation de l'Indonésie aux BRICS est une manifestation du mandat constitutionnel de jouer un rôle actif dans le maintien de l'ordre mondial. L'Indonésie s'est engagée et continuera de s'engager à rapprocher divers intérêts dans divers forums multilatéraux. L'Indonésie est prête à participer de manière constructive à diverses initiatives des BRICS au profit de la communauté mondiale. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu.
Tiap tak bersamamu tak ku rasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu, apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu, semua tanyaku berlalu. Kini ku pun meragu, mungkinkah ku terbenar untukmu? Bilakah memang benar
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, l'île Néden est une petite île située à l'est de la zone côtière de la résidence de Seram Oriental SBT. Cette île possède du sable blanc doux et fin, une eau de mer claire et turquoise et des voies exotiques sur la mer ouverte. En mettant le pied sur l'île Néden, vous aurez l'impression d'être dorloté par une nature magnifique. Outre ces plages de sable blanc, ses eaux claires et ses voies exotiques sur la mer, cette île possède également des étendues de forêt encore belles et bien entretenues. Cette île est célèbre pour ses plages charmantes et exotiques. Pour les touristes qui souhaitent profiter de la beauté naturelle et des vues enchanteresses sur la plage, l'île Néden et ses plages sont encore considérées comme vierges et pourraient constituer un choix de destination touristique attirant à la fois les touristes locaux et étrangers. La biodiversité de cette île en fait une destination de tourisme maritime très attractive. De plus, l'île Néden est également un lieu de nidification pour plusieurs espèces d'oiseaux marins, ce qui ajoute au caractère unique et à l'attrait de cette île. Ce Saya cerita, les récits coréens et les bouts de lever et de coucher de soleil depuis cette île sont vraiment extraordinaires. L'emplacement caché de l'île Néden et son accès difficile signifient que cette île n'est pas trop fréquentée par les touristes. L'île Néden est située dans le hameau de Kidan, le village de Kiltai, le district de Seram Oriental, la résidence de Seram Oriental. Avant de visiter l'île Néden, c'est une bonne idée de vérifier d'abord le transport et l'hébergement que vous utiliserez sur cette île pour que vos vacances en famille deviennent plus sûres et plus confortables. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis semua. Takkan ada yang kekal. Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, La Voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et Naomi, une guide touristique dans un hôtel de Pangkalan Bun, dans le centre du Kalimantan. Chris informe Naomi de ses habitudes. Bonne écoute.
Maaf, Chris. Kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulées « Saya selalu bangun pagi ». Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Saya. Saya, je. Selalu. Selalu, toujours. Bangun. Bangun, se lever. Berangkat. Berangkat, partir. Pagi-pagi. Pagi-pagi. To. Melihat, melihat, voir. Orangutan, orangutan, orangutan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, pas de problème. Kalau begitu, donc. Mari, mari, allons. Chers amis, dans une conversation, vous avez entendu la déclaration « Saya selalu bangun pagi ».« Saya selalu bangun pagi ». »« Je me lève toujours tôt ». Dans cet énoncé, il y a l'adverbe « selalu ».« Selalu », »« toujours ». Ce qui signifie qu'il fonctionne pour marquer des activités qui sont devenues une habitude. Dans cette déclaration, l'activité habituelle de Chris est « bangun pagi ».« Bangun pagi ». En français, « se réveiller tôt ». Ou se lever tôt. Chers amis, écoutons un autre exemple d'utilisation de l'adverbe selalu. Selalu, toujours, pour marquer une activité devenue une habitude. Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. Je prends toujours mon petit déjeuner avant 8 heures. Chris selalu membawa motornya kemanapun. Chris selalu membawa motornya kemanapun. Chris emmène toujours sa moto partout. Chers amis, pour exprimer des informations temporelles, il existe plusieurs expressions couramment utilisées par les Indonésiens. Ces expressions incluent dini hari, dini hari, tôt le matin, pagi pagi, pagi pagi, tôt le matin, siang bolong, midi, et larut malam, tard dans la nuit. L'expression de la description de l'époque a des nuances de sang, sangat, sangat. En français, très ou trop. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Maaf, Chris. kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Bon chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Pikir kau tak sempurna, buat ku tinggalkanmu. Karena ku tak putus sempurna, yang ku butuh kamu. Takkan ku lelah, yakinkan hatimu.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.wongbois.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec Maudry. Et cette fois, nous vous présentons ensuite une chanson du Kalimantan occidental intitulée Tikanang Urang Tue, qui signifie ses souvenirs des parents. Ce jour, la chanson Tikanang Urang Tue a été composée par Bulian Mustafa. Les paroles racontent l'histoire d'un migrant dont ses parents ont disparu dans sa ville natale. Dans les paroles, il est dit que ses parents, sa famille et ses amis du village manquent beaucoup aux migrants. Le migrant espère bientôt retourner dans sa ville natale. Mon cher Joritar, voici la chanson intitulée Tikanang Urang Tue, chantée par Friska Shurina. Bonne écoute!
Urang tue na
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.